cette semi-plénière intitulée donc Apprendre à dominer ou les coûts de la domination. Il nous a semblé intéressant, dans le cadre de ce congrès, de mettre en avant des travaux qui viennent renouveler l'analyse et la compréhension des modes de domination et de leurs effets, notamment en observant non pas comment se réalise la domination d'une catégorie sociale sur une autre, mais en examinant ce qui se passe chez et sur les dominants eux-mêmes. Ces travaux, en effet, étudient les conditions d'exercice et d'efficacité de la domination, et plus précisément le travail symbolique et politique que suppose l'imposition d'une autorité sociale ou politique, ou encore l'imposition de relations asymétriques entre des individus. Ils s'inscrivent dans le prolongement d'autres études, d'autres analyses, qui ont rendu moins naturels les phénomènes de domination en réinterrogeant cette idée qui est très largement acceptée, notamment chez nous, en sociologie, qu'il suffit, ce qui est bien sûr très important, mais qu'il suffit de posséder des ressources qui font la différence pour faire la différence et être un dominant. On peut prendre des exemples de ces analyses, hein, je ne serai pas très exhaustive, mais je vous en cite, hein, bon, par exemple, Pierre Bourdieu, dans son analyse dans les règles de l'art hein, de l'éducation sentimentale de Flaubert, hein, a mis en évidence un raté de la domination en montrant combien Frédéric était un héritier, jeune bourgeois, héritier, mais qui n'avait pas les dispositions à l'héritage, à l'inverse de son ami Deslauriers, qui lui avait bien les dispositions à hériter, mais sans héritage à reprendre. Hein ? Ça peut arriver. Hein ? Donc, à rater de la domination, on peut prendre encore les travaux de Topalov sur les réformateurs sociaux, par exemple, dont il a montré que certains refusaient la domination, et même chez les grands bourgeois, chez le patronat. Ou encore l'étude de Sylvie Tissot sur les luttes entre les fractions anciennes et nouvelles de la bourgeoisie pour la définition de l'espace social. Ou encore, raté de la nomination, hein, ces enfants des classes supérieures qui échouent dans les études universitaires et donc qui échouent à occuper des postes à la hauteur de ce à quoi ils auraient pu prétendre. Enfin, on peut penser aux travaux sur le patronat, le grand patronat, qui mettent en évidence les phénomènes de sélection au sein des enfants de ces grands patrons pour la reprise de leur entreprise. Donc on va suivre un peu, se mettre dans le prolongement de ces études, et on va entendre, grâce à Christine Guyonnet et Éric Neveu, qui sont enseignants en sciences politiques à Rennes, et Wilfried Ligné, qui est chargé de recherche au CESP, le Centre Sciences Sociales du Politique de Paris 1, que je remercie très vivement d'avoir accepté de venir à Nantes. On va entendre donc deux enquêtes, une qui a été réalisée, l'autre qui est encore en cours avec Wilfried, l'une qui porte sur les coûts de la domination, et notamment les coûts de la masculinité. Et avec Wilfried, une étude qui est en cours donc sur la socialisation des enfants des classes supérieures et donc leur apprentissage à devenir les dominants. Donc je laisse la parole à Christine Guyonnet et Éric Neveu pour se répartir le temps de parole qu'ils voudront, étant entendu qu'ils parlent 25 minutes en tout.
Oui, donc bonjour. Nous allons, Éric et moi, jongler à la fois avec le temps et avec le puisqu'il faut qu'on parle tous les deux dans le micro, ça c'est pas très confortable, mais bon, on va essayer. Ah ouais, ça ce serait cool. Ah voilà, il suffit de demander. Bien, donc Eric et moi avons commencé à travailler ensemble sur le genre. On a fait un cours et puis créé un manuel. Et puis, ce faisant, on s'est aperçu qu'il n'y avait pratiquement pas de travaux sur la question de la domination masculine vue du point de vue de l'envers du décor. Et donc, en partant de l'idée que finalement, il n'y avait pas de tabou scientifique qui s'imposait dans ce domaine-là plus que dans d'autres domaines, on a décidé d'aller vers une posture qui est plus une posture que j'aimerais bien appeler d'insolence épistémologique, c'est-à-dire oser être insolent, oser des questions qui peuvent choquer du point de vue du militantisme, hein, y compris nous sur le plan personnel, mais qui d'un point de vue scientifique peuvent avoir une justification tout à fait véritable. C'est donc dans cette optique-là que nous avons décidé d'organiser en premier lieu un colloque en janvier 2010 sur les coûts de la domination masculine, c'est-à-dire dans quelle mesure être un homme, faire partie de la catégorie globale de la masculinité globalement dominante, globalement hégémonique, eh bien, peut entraîner un certain nombre de coûts. Nous donnerons bien entendu plusieurs exemples tout à l'heure. Donc, deux temps ici dans notre présentation. Le premier temps, c'est l'explication de ce délicat cheminement d'un projet scientifique collectif qui a donné lieu donc à la publication de l'ouvrage Boys Don't Cry aux presses universitaires de Rennes. Alors, la première chose que, de ce point de vue-là, on aimerait dire, c'est que nous avons rapidement senti combien nous allions sur un terrain ô combien sensible. Lorsque nous avons diffusé l'appel à communication donc, sur ce thème, nous avons reçu notamment un avertissement d'une association féministe nous accusant d'aller vers un versant masculiniste, un versant anti-féministe, en osant nous interroger sur les ambivalences d'un processus de domination que pourtant nous ne voulions en aucun cas minorer. Nul, et on va y revenir, nul n'est, en aucun cas notre objectif ne consistait à minorer ou à discuter l'existence véritable d'une domination masculine. Il s'agissait simplement d'étudier l'ambivalence de ce processus, comme nous allons essayer de vous l'expliquer. Nous avons également constaté, avec un certain étonnement, que peu de propositions nous ont été envoyées pour organiser ce colloque, comme si, résolument, nous avions affaire à un sujet tabou, un sujet difficile, compliqué, qui semblait effrayer un certain nombre, pourtant, de chercheurs de la communauté travaillant sur les questions du genre. Alors, en ce qui concerne la question des sources d'inspiration, c'est-à-dire quelque part, si on a quand même eu envie de travailler sur ce sujet, c'est parce que nous connaissions, notamment Éric Neveu, qui m'a amené à cette connaissance par la suite, nous connaissions l'existence d'une littérature assez importante en comparaison avec la France, notamment anglo-saxonne, notamment une littérature sur les mouvements masculinistes avec quelqu'un, une sociologue comme Caroline New qui fait partie des pionniers travaillant sur le processus de la domination. Je passe ici la parole à Eric qui va vous expliquer un peu plus en quoi consiste cette posture.
C'est-à-dire, la catégorie de masculiniste, elle est graduellement rentrée, je ne sais pas si on peut dire dans le langage commun, en tout cas c'est un adjectif qu'on voit désormais dans la presse et qui tend à rentrer dans le langage savant, qui nous vient d'ailleurs en large partie du Québec. Donc, des mouvements masculinistes, si j'essaie de les cerner, et d'ailleurs en disant, c'est un parrainage fort encombrant, que eux sont intéressés par la rhétorique des coups, et qu'une des choses qu'ils veulent montrer, c'est qu'être un homme, ça représente énormément de contraintes, et même que c'est plus contraignant ou plus oppressant que d'être une femme dans un certain nombre de pays. Donc je dirais que les mouvements masculinistes, on peut les définir par le fait qu'ils empruntent de manière extrêmement mimétique à la rhétorique féministe, et qui revendiquent en particulier l'égalité des droits. Donc, c'est peut-être un deuxième point de repère, le fait qu'ils soutiennent explicitement qu'il y a eu une bascule dans l'égalité des droits qui s'est faite au détriment des hommes et qu'au fond, un des résultats des conquêtes ou des avancées des femmes ou du féminisme, ça a été de créer une asymétrie de droit, cette fois-ci au détriment des hommes. Et donc, les organisations masculinistes ont un discours qui est explicitement agressif, combatif, contre les conquêtes des femmes, mais contre les mouvements féministes. Alors, avec toute une palette d'expressions qui peuvent aller, je dirais, de la jérémiade à des choses beaucoup plus violentes. Bon, rappelons-nous sur cette seconde rubrique, ces femmes assassinées à l'École polytechnique de Montréal uniquement parce qu'elles étaient des femmes, par quelqu'un qui estimait qu'elles avaient désormais acquis beaucoup trop de droits et qu'elles prenaient trop de place, notamment dans les écoles d'ingénieurs. Alors, ceci dit... Je pense qu'une des ambiguïtés de l'adjectif masculiniste est peut-être de l'empressement avec lequel, y compris dans la communauté scientifique, on se l'est approprié, c'est que tous les mouvements d'hommes qui peuvent s'organiser autour d'une réflexion de revendication sur le genre ou le statut de la masculinité ou des masculinités ne sont pas réductibles à la question du masculinisme. Bon, je pense en particulier, pour ne faire que les citer, à des mouvements comme le mouvement dit des hommes mythopoétiques aux États-Unis ou le mouvement à base plus religieuse des Promise Keepers, alors, qui ont la particularité très singulière, ce qui montre bien qu'il y a un enjeu d'être des mouvements d'hommes non mixtes qui réfléchissent sur la masculinité. Il n'y a pas beaucoup d'antécédents historiques à ce type de mouvement. Alors, on peut tout à fait dire que sociologiquement et politiquement, ces mouvements sont extrêmement ambigus. Au fond, pour reprendre une formule qu'on va réutiliser, ils revendiquent le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils voudraient garder un certain nombre de rentes et d'avantages de la masculinité, et qu'en même temps, ils voudraient aussi pouvoir profiter de ce qu'ils perçoivent imaginairement ou à raison comme étant des singularités, des féminités en termes d'expressivité émotionnelle, voire de dimension chaleureuse ou fusionnelle qu'il peut y avoir dans le care, mais que tout en rêvant de cette espèce de fusion ou de dépassement, ces mouvements ne proposent pas pour autant de modifier les règles, les dimensions les plus pratiques des rapports de genre en termes de répartition des richesses, des tâches domestiques, des responsabilités. Et donc il y a effectivement ce côté un peu velléitaire ou un peu hypocrite qui est de vouloir changer, mais de ne pas assumer pour le coup ce qui serait le prix du changement en termes de recomposition des pouvoirs et des tâches. Mais pour autant, on ne peut pas aligner ce type de mouvement sur des mouvements qui seraient simplement agressivement antiféministes ou qui seraient réactionnaires au sens étymologique d'un retour en arrière aux années 50, voire à plus tôt.
Donc finalement, ce que nous a appris la lecture de ces travaux, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Oui, nous sommes sur un terrain extrêmement sensible et que nous avons ici affaire à un discours de la plainte, et qu'il était particulièrement important pour nous d'étudier non seulement les discours de ces hommes-là, mais aussi les discours de l'ensemble des hommes différemment situés dans l'espace social, et bien entendu les pratiques également, les comportements qui pouvaient être observés. Bref, ne pas s'en tenir à un discours idéologique, c'est ce que nous avons essayé de garder en permanence à l'esprit. Nous nous sommes également aidés pour ce faire des MENT studies qui se sont beaucoup développées dans les pays anglo-saxons à partir des années 90. L'énorme avantage de ces travaux étant de dire que même s'il faut prendre en compte l'évolution historique, notamment l'évolution des normes de la masculinité, être un homme au 19e siècle, ce n'est pas un ensemble de prérequis identiques à ce qu'être un homme aujourd'hui peut signifier. Eric vous donnera quelques exemples tout à l'heure. Donc au-delà de l'évolution qui a pu intervenir, au-delà de la diversité sociale, c'est notamment un auteur comme Demetriou qui parle d'un bloc hégémonique de normes de la masculinité qui s'impose à tous les hommes, quel que soit leur milieu social, alors avec une intensité qui va peut-être varier, on le redira, mais qui s'impose donc globalement à l'ensemble des individus qui sont élevés en tant qu'hommes. Alors c'est ici qu'Eric va vous lire un passage d'un ouvrage assez étonnant, assez inattendu.
Je pense qu'on va être définitivement démasqué, mais peu importe. En fait, j'ai découvert ça cet été en lisant l'intéressant bouquin issu de la thèse de Sylvie Héral, La fabrique des garçons, autour de la question de qui est puni à l'école et des asymétries garçons-filles. Et donc, je ne garantis pas la justesse sociologique ou politique de l'opuscule, mais il y a de très bonnes choses dans le bouquin de Virginie Despentes, King Kong théorie. Et je vais juste vous lire deux passages qui me paraissent bien exprimer dans un langage probablement plus rigolo que celui des sciences sociales, les deux polarités sur lesquelles on essaie de réfléchir. C'est-à-dire, à la fois, il y a de la domination et il ne s'agit pas de le nier, mais pour dominer, il faut aussi, des fois, payer de sa personne ou assumer un certain nombre de coûts. Alors, si je commence, premier passage de Virginie Despentes, c'est plutôt le côté de la domination, elle écrit ceci. « Être complexé, voilà qui est féminin. Effacé, bien écouté, ne pas trop briller intellectuellement, juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un bel autre a raconté, bavarder est féminin. Tout ce qui laisse pas de traces, qui est domestique, se refait tous les jours, porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses, les petites choses, mignonnes, féminines, mais boire, viril. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, viril. Avoir une grosse voiture, viril. Se tenir n'importe comment, viril. Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril. Être agressif, viril. Vouloir baiser avec plein de monde, viril. Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril. Ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, viril. Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, viril. Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du terrain est viril. Et autre passage, je pense qu'on peut entendre l'attention, elle écrit aussi « La virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça exige au juste d'être un homme, un vrai ? Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité, quitter l'enfance brutalement et définitivement, les hommes-enfants n'ont pas bonne presse, être angoissé par la taille de sa bite. » Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse. Museler sa sensualité. S'habiller dans des couleurs ternes. Porter toujours les mêmes chaussures pataudes. Ne pas jouer avec ses cheveux. Ne pas porter trop de bijoux. Ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas. Toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander d'aide. Devoir être courageux, même si on n'en a aucune envie. Valoriser la force, quel que soit son caractère, faire preuve d'agressivité, avoir un accès restreint à la paternité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, craindre son homosexualité, car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré, ne pas jouer à la poupée quand on est petit, et se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches, ne pas trop prendre soin de son corps, être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre, savoir se défendre, même si on est doux. »
Voilà, puisqu'il revient à l'homme de faire le pitre en lisant des extraits distrayants et à la femme de dire les choses sérieuses, je vais donc continuer sur donc l'énumération de la littérature qui a pu nous inspirer. Donc effectivement, les men's studies, dont le livre de Virginie Despentes n'est pas un représentant, mais bon, est une petite, est un petit moment de, on va dire, de distraction. Bref. Donc parmi ces sources, une fois qu'on a évoqué ces normes de la masculinité hégémonique qui donc s'imposent avec force aux petits garçons dès son enfance, eh bien il faut néanmoins dire, avec tout le champ de la psychosociologie américaine, qu'il faut bien prendre conscience que l'intériorisation de ces normes, la réception de ces normes, la sociologie de la réception de ces normes, de l'acculturation à ces normes, comment un enfant, un jeune homme, un homme adulte va recevoir cette idée qu'il ne doit pas pleurer s'il ressent de l'émotion? Comment est-ce qu'il va gérer cette idée? Est-ce qu'il va décider de passer outre, de s'en foutre? Est-ce qu'il va se dire « mais non, c'est ridicule, moi je trouve pas que c'est ça être un homme » ou bien est-ce qu'il va se sentir vraiment contraint de respecter ces normes? Donc c'est de cette psychosociologie américaine, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, également que nous nous sommes intéressés pour étudier la multiplicité des réceptions des normes de la masculinité. Et puis enfin, nous nous sommes dit, il y a tout un tas de travaux désormais sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire la nécessité de coupler les questions de genre, mais aussi de classe sociale, de race, d'âge, etc., de génération, pourquoi est-ce que, après tout, on emploie ce concept pour étudier notamment les questions des processus de domination, les questions des femmes, et pourquoi est-ce que on ne s'interroge pas sur la diversité de la masculinité? Il n'existe pas une masculinité, il existe des masculinités, et partant de là, sans doute que les hommes sont diversement soumis à ces normes qui s'imposent à eux, à ces normes de la virilité. Alors, pour exemplifier une fois de plus, puisque c'est ainsi que nous avons réparti les rôles, en fait, j'en prends conscience.
C'est toi qui as fait le casting.
Parce que c'est moi qui ai tout fait, en fait. Donc, pour diversifier et exemplifier, je passe à nouveau la parole à mon collègue.
Merci. Oui, si j'évoque très rapidement un certain nombre de travaux, alors je vais m'arrêter sur un segment particulier des masculinités qui s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler des manières populaires d'être masculin. Je pense à un travail très intéressant qui a été fait par une collègue belge, Patricia Jamoul, qui s'intéresse en particulier à la vie dans un certain nombre de cités populaires de Wallonie qui sont désindustrialisées et où elle montre très bien comment une des seules choses qui reste à un certain nombre de jeunes hommes de milieux populaires, c'est la force physique, c'est l'agressivité, c'est de ne pas être des gonzesses, qui leur met au moins une suprématie par rapport à une partie de l'humanité, et comment ça aboutit en même temps à des comportements et à des attitudes qui les marginalisent et qui, de fait, les excluent de ce qui peut rester de segments de marché de l'emploi. Je pense, pour donner un autre exemple que je vais faire que citer, que toute une partie, à mon avis, des apports passionnants qu'il y a dans le bouquin « Les gars du coin » de Nicolas Renaï, c'est aussi de réfléchir à cette question des masculinités et des féminités en milieu rural et des désajustements qui peuvent se produire et qui perturbent, par exemple, la stabilité des couples. Ou, prenons un registre plus journalistique, il y a un très beau chapitre dans le bouquin de la journaliste américaine Susan Faludi Stift, qui se focalise sur la situation d'employés hommes d'un chantier naval en Californie, chantier naval qui a fermé, les compétences de ces ouvriers ne sont utilisables nulle part, ils deviennent du jour au lendemain des inutiles au monde, et elle montre comment le fait de ne plus avoir ce statut de breadwinner, que leur force physique n'ait plus aucune utilité sociale, est quelque chose qui est complètement destructeur à tous égards. Et on pourrait ajouter, si je reste focalisé sur cette question d'un certain nombre de modalités populaires des masculinités, qu'à beaucoup d'égards, c'est la double peine. C'est-à-dire, c'est la double peine, puisque d'un côté, une des choses qui était très structurante depuis les travaux de Hogarth dans les identités masculines populaires, qui a été liée à la force physique, à la résistance physique, à la fois, c'est la seule chose qu'ont une partie de ces jeunes, et ça n'est pas vendable sur le marché de l'emploi, et en plus, c'est quelque chose qui va être stigmatisé. C'est-à-dire, qu'est-ce que sont aujourd'hui les mauvaises façons d'être homme, les mauvaises masculinités, celles qui relèvent de la beaufrie, de l'excès? Eh bien, c'est tous ces gens qui sont trop ronds, trop carrés, trop ceci, trop cela, et qui renvoient essentiellement à des incarnations populaires de façon d'être homme, mais de façon d'incarner la masculinité.
Alors, tu pourrais être un peu sérieux et faire la transition, là, puisque c'est toi qui parles à nouveau après.
Voilà. C'est exact. Oui. Bon, alors, la question qu'on peut poser à partir de là, c'est en quoi cette idée d'ambivalence de la domination peut être un objet d'analyse stimulant. Alors, quitte à faire de l'exégèse verbale, j'insiste, on dit bien ambivalence, on ne dit pas ambiguïté. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses douteuses sur le fait qu'il existe un phénomène qui s'appelle la domination masculine et qu'on peut objectiver de multiples manières, depuis le plafond de verre jusqu'au niveau de revenus, jusqu'à la question de savoir qui est victime des violences ou du harcèlement sexuel. Mais ce qui existe en termes d'ambivalence et pas d'ambiguïté, c'est le fait que cette domination, elle a un coût
elle suppose un certain nombre d'investissements, un certain nombre d'efforts, elle suppose de payer de sa personne dans tous les sens du terme, et c'est ça qui vaut la peine d'être éclairé.
Merci. Donc, deux exemples que je vais cette fois-ci développer pour montrer justement ces ambivalences possibles dans d'autres processus de domination. Pourquoi on s'est dit, pourquoi pas là aussi, dans le cas de la domination masculine, finalement, on n'aurait pas le droit d'adopter ce questionnement. Le premier exemple qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est celui de Norbert Elias, étudiant la vie à la cour de Louis XIV, la vie du roi Soleil, et montrant, décortiquant très bien le processus de nomination, d'une part exercé par le roi Soleil sur la cour, et d'autre part exercé par la noblesse, cette société de cour, sur le petit paysan. Donc voici ce qu'écrit Norbert Elias. Donc, les individus de ce cercle privilégié devaient en permanence lutter pour les chances de prestige, pour leur position dans la hiérarchie de la cour. Les scandales, intrigues, disputes en faveur de tel ou tel n'en finissaient jamais. Chacun dépendant de chacun, tous dépendaient du roi. Chacun pouvait faire du tort à chacun. Celui qui, hier, tenait un rang élevé, pouvait le perdre demain. Il n'y avait pas de sécurité, chacun était obligé de conclure des alliances inutiles, de bien arrêter sa tactique dans le combat avec les ennemis irréductibles, de doser chaque mouvement d'approche ou d'éloignement en fonction de sa propre position, de son propre cours. Donc, un excellent exemple, justement, d'analyse des ambivalences d'un processus de domination. Et puis l'autre exemple, malheureusement, je ne peux pas le développer longuement, mais c'est celui que peut inspirer la socio-histoire, notamment la socio-histoire du vote au XIXe siècle, du vote paysan au XIXe siècle, sur lequel j'ai fait ma thèse, où précisément la domination des notables sur la paysannerie qui commence à avoir le droit de vote, eh bien, c'est une domination qui s'entretient aussi. Pour ceux qui ont lu Tocqueville, Tocqueville raconte lui-même combien le fardeau de l'entretien de son statut de grand notable, eh bien, est lourd. Hein. Il faut faire refaire le toit de l'église, il faut faire la charité, il faut aller à la rencontre des habitants en permanence. Bref, il y a aussi, quelque part, tout un travail d'entretien de la domination à réaliser. Donc, à partir de là, la question que nous nous posions, c'est comment pouvait-on justifier ? Eh bien, non, on ne pouvait pas justifier précisément que dans le domaine des gender studies, dans l'analyse de la domination masculine, eh bien, on ne pose pas la question de l'envers du décor, du travail nécessaire à l'entretien de cette domination masculine. Et nous avons donc décidé de passer outre ce silence de la science relatif à la domination masculine, de privilégier une posture d'empathie sociologique. J'insiste sur le sociologique. Il s'agit évidemment pas d'être empathique avec les pauvres hommes qui se plaignent. Il s'agit simplement d'essayer de comprendre d'un point de vue sociologique ce qu'il faut faire comme travail pour être conforme aux normes de la masculinité. Je repasse la parole à Eric.
Oui, alors pour rassurer Annie, ça va être en forme de conclusion. Donc si j'essaie peut-être, pour terminer, d'expliciter qu'est-ce que ça nous paraît pouvoir apporter d'interrogation qui a pris pour clé la question des coûts de la masculinité, ben, je pense que d'une part, je ne dis pas que c'est la seule clé qui l'ouvre, mais c'est une clé qui permet d'ouvrir ou d'accéder à une des opérations de base de ce qu'est la démarche sociologique, c'est-à-dire la question du comprendre qu'est-ce que ça veut dire intérioriser une des modalités sociales de la masculinité, qu'est-ce que ça apporte comme gratification, comme émotion, dans quel jeu de contraintes on s'introduit. Et encore une fois, quitte à radoter, je redis que ça ne signifie absolument pas occulter la question des rapports de pouvoir et de la domination masculine, mais les masculinités, bah, ce sont aussi des jeux d'écart qui ne sont pas, dans 100% des cas, uniquement en faveur des hommes. Si on prend des critères très simples comme la population pénale, le nombre de gens atteints de cirrhose du foie, ou le fait que les accidents du travail dans le bâtiment sont parfois dus à une espèce de surenchère machiste dans le courage, le refus de s'assurer dans tous les sens du terme, voilà aussi des coûts très pratiques de la masculinité.
Il me semble qu'un deuxième intérêt, cette problématique des coûts, ça peut aussi être de nous aider cette fois-ci en termes d'explication. En tant que sociologue et donc intellectuel, nous pouvons être surpris, étonnés de voir des hommes s'accrocher bec et ongles à des formes de virilité qui peuvent nous paraître désuètes, machistes, inconvenantes, voire vulgaires. Je pense que si on s'interroge sur le fait que dans certains cas, renoncer à un certain nombre d'attributs de la virilité, au fond, c'est renoncer à un des rares capitaux dont on dispose, on comprend mieux les choses. Et d'ailleurs, j'ajoute que ça se résonne aussi au féminin. Je pense au bouquin de Jane Mansbridge qui essaie de comprendre pourquoi l'Equal Right Amendment a été récusé aux États-Unis et qui montre que ce sont largement des mobilisations de femmes qui ont abouti à cet échec. Elle aide aussi à comprendre comment des investissements dans la féminité sous la forme de revendiquer avant tout le statut de femme au foyer et de ménagère sont aussi des choses qu'on peut lire en termes de coûts et de gratification. Et inversement, d'ailleurs, il me semble qu'une problématique des coûts peut permettre de décoder sociologiquement et parfois de manière un peu abrasive un certain nombre de postures qui peuvent paraître avant-gardistes et éclairées. Je pense au petit papier très décapant que François de Singly avait dû écrire il y a une quinzaine d'années, Les habits neufs de la masculinité. Même quand on chamaille sur les comptes d'une association, les rapports entre universitaires se terminent rarement par des coups de poing ou des échanges physiques. Donc ça ne nous coûte pas cher, à nous intellectuels, de renoncer à tout un certain nombre d'attributs de la masculinité qui sont liés aux muscles et à la violence, où de toute façon on ne les utilise pas ou de façon rarissime. Et donc il y a des manières de redéfinir des masculinités correctes, progressistes, qui ont aussi des enjeux en termes de rapport de pouvoir. Les auteurs des féministes et le garçon arabe ne raisonnent pas dans un lexique du coup, mais après tout on pourrait relire leur petit bouquin très stimulant comme montrant que ce qu'on va appeler avec des guillemets d'ironie la masculinité arabe est une masculinité particulièrement coûteuse dans la société française parce qu'elle serait communautariste, non laïque, spécialement oppressive pour les femmes. Et puis, dernière remarque, qui a certainement un côté normatif, mais on peut l'assumer, je pense que la problématique des coûts peut aussi amener à réfléchir sur la question du changement des rapports de genre ou de l'invention d'autres rapports de genre. Et je résumerai ça à deux énoncés qui demanderaient eux-mêmes quasiment un colloque à eux tout seuls. C'est que d'une part, beaucoup d'hommes auraient à gagner, à renoncer à un certain nombre de fantasmes, d'éléments du cahier des charges et de mythologies liées au modèle hégémonique de la virilité, mais, et les deux propositions sont inséparables, que, évidemment, ça ne peut pas se faire dans un espèce de fantasme du meilleur des deux mondes que j'évoquais tout à l'heure, et que la recomposition des rapports de genre ne peut aussi avoir que des coûts significatif pour les hommes en termes de renonciation ou de perte d'un certain nombre de privilèges, de définition de la répartition des tâches, des responsabilités, des droits. L'un n'ira pas sans l'autre. Merci.
Merci beaucoup. Alors, oui, donc on va changer un peu de sujet, mais il sera toujours question de domination, donc on est au bon endroit, je suis impressionné. Oui, alors d'abord remercier de m'avoir invité, et puis dire aussi que donc l'idée c'était de faire quelque chose d'un peu général, parce que c'est une semi-plénière, etc. Donc ça m'a un peu brossé dans le mauvais sens du poil, donc j'espère que ce que je vais raconter sera à peu près compréhensible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Annie a parlé d'une enquête en cours. Alors, plus exactement, j'ai travaillé jusqu'à maintenant sur les enfants intellectuellement précoces. J'ai travaillé dans un collectif qui s'appelle Rupture sur les séparations conjugales et en particulier sur la question des enfants. J'ai travaillé avec Julie Pagy sur la question des perceptions enfantines d'ordre social. Et j'essaie de mettre en place une enquête plus générale sur la socialisation des enfants des classes supérieures. Mais elle n'est pas en cours au sens de j'ai pas commencé le terrain. Donc, ce que vous avez là, c'est un peu un moment où j'essaie de regrouper un peu les choses que vous. Que les idées que j'ai pu avoir au fil de ces trois enquêtes auxquelles j'ai participé depuis que j'ai commencé la socio. Et du coup ça, c'est encore une fois pour excuser le caractère peut-être un peu désincarné de certains passages de ce que je vais vous raconter. Voilà, après ces excuses, bon, je vais commencer. Donc, le titre, c'est « Comment rester dominant à propos des incertitudes de la reproduction ?» Pour introduire mon propos, peut-être qu'on peut partir de la formule célèbre qui ouvre le livre de Paul Willis, qui a été publié récemment en français et qui est souvent rappelé. Je vous la lis. « La difficulté, écrivait-il, lorsque l'on tente d'expliquer pourquoi les enfants de bourgeois obtiennent des boulots de bourgeois, et de savoir pourquoi les autres les laissent faire. La difficulté, lorsque l'on tente d'expliquer pourquoi les enfants de la classe ouvrière obtiennent des boulots d'ouvriers, est de savoir pourquoi ils se laissent faire. » C'est une phrase assez intéressante. Une fois n'est pas coutume, je voudrais commenter la première partie de cette phrase, et non pas la seconde, qui a été commentée récemment notamment par Hugo Paglietta de manière tout à fait intéressante. Moi, je travaille plutôt sur les classes supérieures, donc c'est les enfants de bourgeois qui m'intéressent plutôt. Et dire peut-être que cette formule pose une question qui est la suivante. La socialisation des enfants de bourgeois, disons des enfants des classes supérieures, est-ce qu'elle aurait vraiment aussi extérieure que suggère l'idée que le problème sociologique les concernant serait de comprendre pourquoi, je recite, on les laisse faire ? Autrement dit, ceux qui naissent et grandissent dans les zones les plus favorisées de l'espace social n'auraient-ils quant à eux qu'à se laisser porter par des structures et des processus sociaux qui seraient si impérieux qu'ils leur permettraient, non seulement sans contestation, mais aussi sans effort, sans tension spécifique, sans coût peut-être, on pourrait dire, de préserver leur position ? Alors en vérité, le fait de rester ouvrier, de rester socialement dominé, pose des questions sociologiques, entre autres, comme le montre Paul Willis, celle de l'apprentissage, de l'anticipation aussi, de l'acceptation d'une position sociale, que pose aussi, bien que dans des termes forcément différents, le fait de rester bourgeois, c'est-à-dire en termes plus polis, puisqu'on est à cette époque sociologique, de rester cadre, de rester intellectuel, bref, de rester dominant. Alors, une précision ici, il ne me semble pas inutile de parler d'un rester dominant à propos de la socialisation des enfants des classes supérieures, parce que ce vocabulaire, celui de la préservation, de la reproduction de la domination, permet en particulier d'éviter un écueil fréquent, la réduction de l'étude de cette socialisation particulière à la description d'une culture singulière, d'un mode de vie spécifique des enfants des classes supérieures, comme s'il s'agissait au fond d'un groupe complètement isolé. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas démarré mon chrono, donc je ne sais pas combien de temps je parle. Oui, mais dis-moi combien de temps j'ai parlé quand même. Bon, on est mal barré, hein, bon. Alors, j'en étais, oui, comme s'il s'agissait d'une culture singulière, c'est-à-dire d'un mode de vie spécifique, comme s'il s'agissait donc d'un groupe complètement isolé, ayant une culture qui vaudrait pour elle-même et des institutions propres. Certes, cette approche qu'on peut appeler ethnologique au mauvais sens du terme, hein, au sens... que stigmatiser par exemple Bazin en parlant de science des mœurs par rapport à l'ethnographie, qui serait une description de l'action, bref, eh bien, cette approche ethnologique peut paraître justifiée par les formes observables d'isolement des enfants socialement favorisés, via notamment, on le sait, la ségrégation urbaine, la ségrégation scolaire, etc. Cependant, la socialisation de ces enfants continue de se faire en relation avec celle des autres enfants des autres classes sociales, notamment, j'insiste, parce que les différentes classes sociales demeurent confrontées à des institutions de l'enfance qui reste relativement commune. Alors je pense en particulier, évidemment, à l'école, mais cette fois en tant que système scolaire qui reste relativement cohérent, malgré le fait que, comme on le sait, il est très différencié. Hein, jusqu'à preuve du contraire, les enfants, par exemple, vont en CM2. Hein, bon, pas forcément les mêmes CM2, mais il y a quand même des éléments qui rendent en fait les institutions de l'enfance communes. Alors cela étant posé, il est impératif de se faire plus précis et de parler à propos de la socialisation primaire des classes supérieures, d'un rester peut-être dominant. Cette précision, elle s'impose avant tout du fait de constats objectifs, sur lesquels je vais insister actuellement, concernant les chances statistiques mesurables de maintenir une position sociale favorable quand on est soi-même issu des zones les plus favorisées de l'espace social. Alors là, ici, je vais simplement reprendre ce qu'a pu écrire Camille Penny à partir de l'enquête emploi là-dessus, donc quelques chiffres qui sont évidemment... Je vais appréhender la domination, le fait d'être dominant avec des catégories INSEE, etc. Donc ça pourrait être plus subtil que ça, mais ça donne quand même une indication. Pour les enfants de cadre, donc il entend là par là cadre, profession intellectuelle et profession intellectuelle supérieure, il lit toutes les fractions des classes supérieures ensemble, la reproduction de la position paternelle, réduction des radules focales, est certes fréquente, mais elle n'est absolument pas acquise. Alors je donne un exemple, les fils de cadre, né en 69-73, les données sont assez anciennes parce qu'il faut attendre, comme toutes les questions de mobilité, que les enfants aient acquis une position eux-mêmes. Donc ces fils de cadre, nés en 69-73, ne sont devenus cadres eux-mêmes qu'à hauteur de 53% donc à l'âge de 35 à 39 ans. Par ailleurs, les cas que Penny qualifie de déclassement sévère ne sont pas négligeables dans cette population, puisque ça représente 20% des fils de cadres de la génération 69-73 qui sont devenus ouvriers ou employés. J'ajouterai enfin que les chances statistiques de ne pas rester dominants peuvent s'amenuiser suivant les propriétés spécifiques des enfants et suivant les fractions de classe. Alors, Penny cite notamment la question du genre. Le chiffre que j'ai cité, 53%, c'est pour les seuls fils. Si on passe aux filles, alors évidemment, il y a des enjeux évidemment de état du marché de l'emploi, mesure des positions, etc. On baisse de 15 points. Hein, on a 38% de reproduction de la position paternelle. Alors, le passage de paternelle à aux filles, évidemment, ça a un effet aussi, mais c'est quand même assez intéressant de noter. Concernant les variations suivant les fractions de classe, Penny notait que les enfants issus du pôle le plus culturel, des classes supérieures, ont tendance à mieux s'en sortir du point de vue de leur reproduction. Par exemple, les enfants dont le père est professeur ou exerce une profession libérale maintiennent une position de cadre plus souvent que la moyenne, 50%, donc tout sexe confondu, contre 40% de cas en moyenne. Alors, mais le constat d'ensemble reste valable, quel que soit le sexe ou la fraction considérée, on voit bien que la chance objective des enfants issus des classes supérieures de ne pas rester dominant, dans le sens statistique que j'ai indiqué là, n'est pas négligeable, et ce, bien que je dois faire cette comparaison évidemment, le risque de ne pas devenir dominant reste beaucoup plus faible que celui des enfants des classes populaires de devenir dominant. Pour mémoire, toujours Penny, 6% des fils d'ouvriers non qualifiés comparables aux fils de cadres cités précédemment deviennent cadres, et 75% d'entre eux deviennent ouvriers ou employés. Alors, rester ainsi dominant est donc une affaire qui demeure, malgré la stabilité relative de l'ordre social, objectivement incertaine. Bon, il faudrait nuancer, évidemment, de dire mais qu'est-ce qu'on appelle cadre au fil du temps, etc. On pourrait y revenir dans les questions, mais c'était pour donner un élément sur un ordre d'idée, en fait, sur cette probabilité objective de ne pas rester dominant. Mais il y a plus important. Suivant une distinction classique, cette probabilité objective de devenir ou pas cadre, de rester ou pas dominant, est relativement indépendante de la probabilité subjective, hein, la perception que peuvent en avoir les premiers concernés, c'est-à-dire la distance subjective que les premiers concernés se donnent, c'est-à-dire à la fois les enfants eux-mêmes, mais surtout évidemment les agents de socialisation que sont les parents. Alors là, je fais un petit aparté qui me tient à cœur, donc je ne sais pas à quel point il colle à ce que je viens de vous raconter là, mais là, il y a un point très important, c'est que cette question de la relation subjective avec le fait de rester dominant, la relation objective, elle est, à mon avis, un peu oubliée, parce que l'usage qui est fait du terme de reproduction de Bourdieu et Passeron, sous le terme qu'il faut repérer, il me semble, de reproduction sociale, notamment qu'on a à longueur de temps dans les cours, hein, ou dans les copies, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, finit par être un symétrique de changement social. Un symétrique malheureux. Un antonyme malheureux, oui, il y a quand même la reproduction sociale par rapport au changement social. Alors, cette opération, bon, elle peut être discutable en tant que telle, parce qu'elle a un petit côté routinisant, etc., mais elle a une particularité, c'est qu'elle oblige une lecture objectiviste du terme de reproduction, c'est-à-dire qu'elle oblige à aller... Le changement social étant quelque chose d'objectiviste qui se lie dans l'état de mobilité, eh bien, la reproduction, ce qu'a raconté Bourdieu, bon, pour autant qu'on a été plus ou moins voir en fait, ce qu'il racontait effectivement sur la question, ça devient une question purement structurelle, hein, un concept purement structurel d'ordre objectif de reproduction de l'ordre social. Or, et c'est là qu'on touche à la question de la probabilité subjective, l'intérêt du concept de reproduction, c'est justement qu'il lie l'aspect reproduction d'ordre social à la question pratique, et donc notamment subjective, du rapport à cette reproduction. Et comment le rapport à cette reproduction contribue effectivement à la fin, en fait, à refaire de la reproduction du point de vue structurel. Ce que je veux dire par là, je ne sais pas si c'est clair cet aspect-là, mais c'est que voilà, la reproduction est aussi bien quelque chose que l'on subit, mais aussi quelque chose que l'on fait. C'est une banalité ce que je dis là, mais j'ai l'impression que avoir les usages qui se utilisent de ce terme de reproduction, eh bien, on manque le côté stratégie de reproduction en fait de la reproduction. Alors évidemment pas partout, mais on lit un certain nombre. Une fois qu'on a dit ça, on peut même ajouter, et là on arrive à ce qui m'intéresse plus précisément, puisque moi ce qui m'intéresse c'est cette question de savoir si on reste ou pas dominant, c'est que dans ce rapport pratique à la domination, à la reproduction, il y a notamment ce que Chamboredon a appelé, mais incidemment et sans développer davantage, la question des incertitudes de la reproduction. Hein, c'est-à-dire, effectivement, le fait de se dire, est-ce que ça va le faire ? Est-ce qu'on est bien parti ? Est-ce que
bien sûr, on n'est pas trop mal parti parce qu'on a des ressources, parce qu'on n'est pas né au mauvais endroit, etc. Mais en même temps, bah, vous voyez, c'est comme quand on fait un examen, bah, on passe l'agrégation, on est normalien, etc. On se dit, bon, normalement, on l'a tous, mais si on arrête de faire tout, ben, ça ne fera pas, quoi. On ne s'est pas porté par flux statistique, quoi, bon. Alors ça, cette idée-là, en fait, elle est à mon avis très importante, puisqu'elle permet de dire, voilà, la question de l'incertitude, donc de pointer la question de l'incertitude subjective, qui peut être un opérateur assez important des pratiques de socialisation, parce qu'on se dit, ben, attention, là c'est le moment où c'est en train de merder, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Alors, cette question donc, de la reproduction en pratique, des incertitudes de la reproduction, eh bien, elle se situe, pour essayer de l'incarner un petit peu plus, au confluent d'interrogations du genre des suivantes, vécues bien entendu sur des modes plus ou moins conscients. Enfin, je dis ça rapidement, en fait, il faudrait certainement développer, c'est peut-être une faiblesse de ce que je suis en train de vous dire, mais bon. Mon enfant réussira-t-il, sera-t-il ce que j'aimerais qu'il soit? Ce qu'il est aujourd'hui laisse-t-il présager le meilleur pour demain? Ce qu'il fait, ce qu'on fait avec lui, nous, ses parents bien sûr, mais aussi ses autres éducateurs, ses enseignants, ses pères, etc., est-ce judicieux, est-ce adapté à l'avenir qu'on lui souhaite? Alors évidemment, ce n'est pas forcément sur le mode de « on aimerait bien qu'il soit cadre ». Bon, ça peut être sur des choses qui sont plus de détails, mais qui ont en réalité un rapport culturel avec des positions sociales. Et du côté de l'enfant, on peut dire aussi, suis-je moi-même à la hauteur de ce qu'on attend de moi? Je pense que ça rejoint un petit peu des questions que... mais en termes d'anticipation de la position sociale, vous voyez bien que là, on est vraiment dans le symétrique de Paul Willis, de ce à quoi l'on peut s'attendre à mon sujet, hein, simplement, de ce que je m'attends moi-même à devenir, que dois-je faire pour que ce soit le cas? Et puis on va ajouter quand même, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On voit que l'incertitude de l'enfant peut être précisément l'endroit où, objectivement, ça risque de merder. Bon. Alors, ces questions, ce ne sont pas des questions en l'air, des états d'âme déconnectés de toute action concrète. On peut faire l'hypothèse que c'est précisément... l'épreuve, voire l'expression de ce genre d'incertitude sur les chances qu'ont leurs enfants de rester dominants, ou plus simplement de réussir économiquement, culturellement, conjugalement, etc., qui vient justifier et ou susciter dans les familles des classes supérieures toute une série d'activités visant à la réduire. Suivi quasi scientifique du développement de l'enfant, investissement dans la scolarité, entretien du capital culturel familial, attention soutenue aux fréquentations, etc., on pourrait les multiplier. Et ces activités-là ne peuvent que renforcer la probabilité objective, cette fois, que les enfants construisent finalement une position sociale favorable. Voilà, là on a fini le tunnel un petit peu pour essayer de cadrer cette histoire d'incertitude de la reproduction. Alors pourquoi je trouve ça intéressant de développer ce point? Parce que donc ces aspects incertitude de la reproduction, caractère objectif et subjectif, des fois mêlés, parce que pour essayer de vous convaincre que ça a un intérêt, je voudrais montrer que je suis convaincu qu'elle permet de voir des choses sociologiquement qu'on ne voit pas sinon. C'est-à-dire, comme on dit, que c'est un peu heuristique. Alors, et pour cause, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi dans une enquête précédente portant sur le recours parental au cours de la socialisation aux cliniques, et plus exactement à une évaluation psychologique du niveau intellectuel des enfants. Et plus exactement encore, tout ce qui était autour du diagnostic de précocité intellectuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément le fait d'identifier un enfant comme enfant surdoué. Alors je vais vous raconter un petit peu, je vais faire sur le mode un peu du récit, à quel moment, en fait, il me semble que le moment, la question de l'incertitude, elle devient intéressante, elle permet de voir des choses et de développer des éléments. Quand j'ai fait mon enquête, cette enquête donc sur les enfants précoces qui a été ma thèse, en fait, que j'ai faite en 2010, mon ambition initiale était, à vrai dire, plutôt critique, pour ne pas dire vraiment un enjeu de dévoilement. Il s'agissait notamment de dévoiler quoi? Eh bien, de dévoiler la morphologie, en fait, de ce diagnostic, c'est-à-dire qui sont socialement les familles et les enfants qui sont concernés par ce diagnostic de précocité intellectuelle. Hein, en France, qui va vers ce genre de diagnostic? Alors j'ai fait pour ce faire un travail de quantification, bon, je ne vais pas détailler les modalités, on pourra y revenir dans les questions éventuellement, mais ce n'est pas là-dessus que je vais insister aujourd'hui. Par contre, je précise les résultats, parce que c'est important pour ce que je vais vous dire par la suite, c'est que ce travail de quantification, avec ses limites, ses conditions spécifiques, etc., m'a donné un ordre d'idée en fait, de ce qu'était socialement, en termes morphologiques, en fait, cette population de parents qui ont recours donc, au diagnostic de précocité intellectuelle. Les chiffres, c'était les suivants. Donc, près de deux tiers d'enfants, deux quarts et de profession intellectuelle ou chef d'entreprise, en termes de profession du père. Des enfants dont les parents sont habituellement très, voire hyper diplômés. Hein, je donne un exemple, 80% des mères ont un diplôme supérieur à Bac+2. 75% de garçons. Ça, c'est pour c'est le lien avec vous. C'est un peu cheap. Des enfants testés très jeunes, en moyenne un peu avant 7 ans, avec un âge modal de 5 ans, ce qui était une surprise d'enquête en réalité, et des enfants peu souvent en difficulté scolaire, ça c'est un point important, des enfants peu souvent en difficulté scolaire, suivant deux critères, seulement 2% redoublés, c'est très faible, mais en même temps ils sont très jeunes, donc le critère le plus important c'est plutôt le critère un peu subjectif que j'avais pris, j'avais demandé aux parents comment eux voyaient leurs enfants en termes de difficulté scolaire, et seuls 8% des parents concernés décrivaient leurs enfants comme en difficulté scolaire. Alors ce dernier point est important puisque c'est le niveau de dévoilement maximum, si vous voulez, parce que jusqu'à présent, la légitimation publique de la figure de l'enfant précoce ou surdoué, qui est importante puisque aujourd'hui l'État, le ministère de l'Éducation reconnaît cette figure depuis 2002, elle est passée très fortement par le fait de dire, d'imposer cette idée paradoxale que ces enfants très intelligents, étaient paradoxalement en difficulté scolaire. Donc, ça pour dire qu'en termes de dévoilement, j'étais assez servi. C'est-à-dire que finalement, j'avais un peu... La question, c'est est-ce que je pouvais m'arrêter là ? Il y avait quand même un problème, c'est de dire... On peut dire, c'est bon, mission accomplie, je voulais dévoiler, j'ai dévoilé. Le problème, c'était, mais du coup, pourquoi ils font ça ? C'est-à-dire qu'il y a quand même un souci, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont, pour résumer ce que je viens de dire, issus de familles favorisées, donc qui ont tout pour eux, si vous voulez, familles favorisées, parents diplômés, sexe fort, bon niveau scolaire. Ben, c'est là que l'idée que l'explication de cette pratique, elle avait certainement à voir avec l'incertitude subjective et objective qui persiste dans le cas de ces familles qui semblent avoir tout pour eux. Ou plus exactement, l'idée qu'elles ont tout pour eux, que le monde social paraît leur sourire, c'est typiquement une vision très objectiviste, en fait, de leur situation, alors que on peut essayer d'avoir une vision, je devrais dire pratique plutôt que subjectiviste, parce que je ne voudrais pas suggérer que ça serait quelque chose qui d'un seul coup partirait dans des trucs très psychologiques, etc. Mais je vais l'incarner un petit peu là maintenant, mais si vous voulez, c'était un point important. Donc c'est à ce moment-là que cette question d'incertitude, elle est tout à fait importante. Alors incertitude, ça veut dire quoi ? Alors je vais commencer justement peut-être par le plus intéressant, c'est la question d'incertitude subjective. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit dans ces conditions-là que son enfant, il faut savoir ce qu'il en est de son état d'esprit, plus exactement son niveau intellectuel. Hein. L'idée de savoir qu'est-ce qui fait que la question « que vaut l'enfant intellectuellement » elle devient une question qui devient vraiment vitale. Vitale parce qu'on vous dit c'était une quête, etc. Bon, je ne peux pas refaire tous les détails de l'enquête, mais... Alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, ça ne concerne pas tous les parents, ce n'est pas tous les enfants, parents des classes supérieures qui ont ce type de questions, mais que, justement, on peut rendre compte des conditions sociales spécifiques qui font qu'ils se sont, eux, posés ce type de questions. Et notamment, donc là, je vais devoir résumer un peu plus, le fait qu'ils se disent, donc, qu'est-ce qu'est mon enfant intellectuellement, c'est ce qui est socialement le plus surprenant, c'est le fait qu'ils se disent, finalement, que ce que leur dit l'école du niveau intellectuel de l'enfant, parce que les enfants sont scolarisés, ne leur paraît pas suffisant. C'est-à-dire que l'institution dominante, ultra-dominante en termes d'identification des enfants sur le plan intellectuel, c'est l'école. Or, ses parents se disent « ça ne suffit pas ». Ils se posent quand même la question « que vaut l'enfant ?». C'est comme si l'école n'y avait pas répondu. Et ça, évidemment, ça dépend en fait de choses qui sont à la fois liées à leur disposition propre, mais aussi, il faut le dire, aux configurations institutionnelles propres à l'école. Donc je vais dire deux points là-dessus. Sur la question de leur disposition propre pour aller vite, ce que j'ai compris en regardant un peu les trajectoires de ses parents, c'est que c'était très lié à leur propre rapport à l'institution scolaire construit socialement, c'est-à-dire qui a conduit de manière assez différenciée, d'ailleurs, suivant les groupes plus spécifiques de parents parmi cette population, à construire une confiance faible dans les évaluations de l'école. De l'école, on va dire, de l'école ordinaire. Je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. Donc cette confiance faible, ça peut être soit sur le mode de la défiance, c'est-à-dire qu'on a des parents qui, compte tenu de ce qu'ils sont socialement actuellement, vous l'imaginez bien, sont des parents qui ont souvent été scolarisés, parfois du début jusqu'à la fin, dans des secteurs pas ordinaires justement, très sélectifs, y compris à des jeunes âges. Donc l'école ordinaire, dans laquelle il s'avère que finalement ils scolarisent leurs enfants, la valeur de ce qu'elle peut dire de leur enfant, ils trouvent que ce n'est pas forcément un indicateur particulièrement intéressant, par rapport à ce qu'eux en pensent, par exemple. Et puis, il y a quand même, chez des parents qui sont plus minoritaires, parce qu'évidemment, ils sont plutôt plus bas socialement, le mode de la méfiance aussi. C'est-à-dire, la faible confiance, ça peut être aussi la méfiance, c'est-à-dire, on a aussi des parents qui sont des parents qui ont obtenu un diplôme, mais monnaie de singe, donc ils n'ont pas réussi, compte tenu de l'effet générationnel, ils n'ont pas réussi à le transformer sur le marché de l'emploi. Donc, en fait, c'est trompé de l'évaluation scolaire. Donc, eux, le côté trompeur de l'évaluation scolaire, ils l'ont quand même senti. Ou alors, à l'inverse, ils ont réussi en dépit d'études totalement foirées. Bon, donc ça, c'est le côté, je ne vais pas le développer, mais vous voyez, on peut le faire. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le faire aussi du point de vue des conditions institutionnelles. Et là, c'est intéressant de voir que ça explique pour partie la question de l'âge auquel les enfants sont testés. C'est-à-dire que l'âge auquel les enfants sont testés, c'est-à-dire le moment où la question « que valent-ils intellectuellement ?» a du sens, c'est un moment où l'institution scolaire évalue peu, ou en tout cas pas de manière hyper dense et hyper récurrente, c'est-à-dire maternelle et début de l'élémentaire. Il n'y a pas forcément de notes, il n'y a pas de palmarès des écoles primaires, il n'y a pas autant que par la suite de filières ségrégées, etc. Alors je donne un élément de terrain, d'entretien pour vous donner un élément. C'était un des pères qui était plutôt dans le groupe les méfiants, là, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui lui avait réussi en dépit de peu de capital scolaire au initial, disait « il est premier de sa classe ». Non, c'était une fille, c'est une dernière fille. Elle est première de sa classe, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit juste première de sa classe, sachant que c'est on habite en banlieue parisienne, si elle va ailleurs par la suite, bon. Donc ça, c'est ce type d'incertitude donc qui joue dans le fait d'avoir recours aux tests, à des tests. Et donc vous aurez noté qu'il ne s'agit pas d'une réalité psychologique sui generis chez ses parents, mais qu'elle renvoie au fond, donc j'ai dit disposition sociale et configuration institutionnelle, c'est-à-dire, autrement dit, à l'histoire individuelle et à l'histoire collective. Alors, deuxième point qu'il ne faut surtout pas manquer, parce que sinon on est trop compréhensif d'une certaine manière, on dit, bah, c'est normal, les pauvres, par exemple, il y a une scolarité heurtée pour eux, donc pas de confiance dans l'école, etc. C'est qu'effectivement, il y a aussi des enjeux directement plus concrets, en fait, qui sont liés à la réduction d'incertitudes objectives, c'est-à-dire à des modifications effectives des contextes de socialisation. Donc là, encore une fois, je vais devoir être bref, les identifications ne sont pas gratuites, on ne les fait pas comme ça, on les fait pour faire des choses sur l'école. En l'occurrence, donc je dis sur l'école, donc dans le cas de la précocité, ça ne donne pas lieu à des suivis thérapeutiques, donc c'est plutôt de l'action scolaire, et là on a des choses assez différentes, mais dont le principe est toujours production d'une identification alternative des enfants sur le plan cognitif, c'est-à-dire une identification psychologique. Vous voyez pourquoi je dis alternative ? Alternative parce que, ordinairement, pour la plupart des gens, en fait, c'est l'école qui a le monopole de la définition de ce que sont les enfants sur le plan cognitif. Bon. Ils vont chercher ce type de choses, et donc comme on produit une pièce à un procès, ils produisent ce type de légitimité, ce type d'identification, pour obtenir un certain nombre de modifications, qui vont de choses très légères, comme obtenir la mansuétude des enseignants par rapport à différents types de petites déviances, qui ne se voient pas au terme de niveau scolaire, obtenir une attention pédagogique renforcée, accéder à certaines classes, par exemple les classes à double niveau, c'est quelque chose qui revient très souvent, accéder à certains établissements, notamment dans le privé, pas trop carte scolaire, mais plutôt dans le privé. Hein, on a 40% des parents en question qui vont dans le privé. Donc, par exemple, quand c'est à Paris, c'est difficile, on ne peut pas aller partout. Donc, on dit oui, en plus, il est précoce. Et enfin, centralement, obtenir des sauts de classe, qui est de modification par excellence. Mais dont il faut bien dire que ce saut de classe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire modification du contexte de socialisation des enfants. Ça veut dire placer des enfants avec des plus âgés qu'eux, donc être pris dans des contextes de socialisation. Je dois être à peu près vers la fin, là, quasiment. Donc, au fond, ben, ce qu'il s'agit là, c'est... Il me semble qu'autour de ça, voilà, ce que recherchaient les parents, c'est, pour essayer de faire quand même le lien avec ce que je disais sur Reste le lien, c'est essayer de trouver, avec, en l'occurrence, les savoirs cliniques, mais ça pourrait être autre chose, une chance supplémentaire de rester dominant. Une manière de réduire l'incertitude, à la fois le côté compréhensif, c'est leur flip, enfin, leur peur, en fait, voilà, réduire leur peur, mais aussi réduire effectivement, modifier effectivement en fait, les conditions de socialisation. Pour le dire en termes plus ethnographiques, plus de terrain, plus inductif, c'est des parents voilà, qui vont vous dire des choses du type « on a vraiment peur que notre enfant coule ». Qui coule ? Parce qu'il commence à s'ennuyer, puis petit à petit... Bon. Alors évidemment, quand ils y coulent, c'est pas relativement à rien du tout. C'est relativement à... Si on le laisse dans les cadres de socialisation ordinaire, c'est-à-dire dans l'école ordinaire, avec tout ce qu'elle implique, non seulement de gens ordinaires, voire de gens vulgaires. Donc classe populaire, pas forcément juste des gens éloignés de soi. Alors je conclue en disant deux choses. Il me semble que si l'on tient pour acquis le fait que la reproduction des classes dominantes roule... sous prétexte qu'ils ont effectivement de leur côté les institutions de l'enfance, notamment l'école. J'ai tenu pour acquis que l'école est orientée, et, enfin, la culture de l'école, l'arbitraire scolaire, etc., que la culture de l'école est la culture des dominants, il n'y a pas de problème avec ça. Eh bien, si on tiendra trop ça pour acquis, eh bien, on ratera certainement ce type de travail de réduction, qui peut être un travail fin, hein, vous voyez, par exemple, changer une classe de niveau, ça peut... de l'incertitude que l'on peut repérer, par exemple, autour de l'usage des tests de QI comme celui que je viens de détailler. Et pour élargir, je dirais peut-être qu'il n'est pas impossible que l'un des moyens importants que les classes supérieures ont que les agents de socialisateurs des classes supérieures ont de réduire l'incertitude de leur reproduction, c'est peut-être de jouer justement sur la question des identifications, puisque c'est un peu le terme que j'ai repris régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des effets de réassurance, pouvoir identifier de manière légitime ces enfants au-delà de ce que du mainstream, des institutions mainstream, en fait, c'est quelque chose qui est une possibilité. Quand on a un petit doute, on va voir un psy ou un orthophoniste, et puis bon, ça va mieux. On se dit, on est inquiété ou pas, mais ça va pas forcément mieux, mais on sait plus ce qu'il en est, on sait un peu plus ce qu'il en est. Mais aussi, et c'est important, une possibilité qui est quand même, il faut bien le voir, tout à fait sélective socialement, potentiellement, de renégocier les identifications ordinaires. Puisque par exemple, quand on dit d'un enfant, quand on arrive à faire sauter une classe à un enfant spécifiquement parce qu'on lui a fait faire un test, ça veut plus exactement dire que la manière qu'il avait d'être identifié par l'école, d'une part, mais aussi socialement au fond, c'est-à-dire par l'école, mais aussi par ses parents, ne suffisait pas à ce qu'il y ait un saut de classe. Derrière cette petite logique-là, sur un tout petit objet, il s'agit peut-être qu'il y a quelque chose de plus général qui est quels sont les groupes sociaux qui ont les moyens d'avoir recours à des manières d'identifier leurs enfants qui ne sont pas mainstream et qui donc leur offrent des possibilités, qui leur donnent un pouvoir supplémentaire en termes de gestion de l'incertitude sur la reproduction, de possibilités de socialisation.